Il s'appelle Jérôme Payet, il est le fondateur et dirigeant du bureau d'études Cycleco, qui permet aux entreprises de calculer l'impact environnemental de leurs produits. L'occasion de comprendre enfin les critères d'évaluation de l'affichage environnemental. Une interview signée Pascal Marcaggi.
Vous êtes à la fois professeur et vous travaillez ?
Exactement. Je partage mon temps d'un côté à enseigner à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne et l'autre partie de mon temps, l'autre moitié de mon temps, à animer un bureau d'études pour accompagner les entreprises pour faire de l'affichage environnemental et de l'éco-conception.
Et le ministère de l'écologie français a demandé à un certain nombre d'entreprises de se prêter à l'exercice de l'affichage environnemental. On vous a demandé ça à vous, une entreprise suisse ?
Alors, Cycleco est une entreprise française, mais en l'occurrence, Velleda, qui est une entreprise qui, elle, sur plusieurs pays, nous a sollicité pour qu'on les accompagne dans le cadre de la démarche réglementaire française.
Alors comment ça marche tout ça ?
Le principe de l'affichage, c'est de faire évoluer la perception du produit par les consommateurs de façon à ce que les consommateurs puissent se positionner dans leur âme et conscience pour le choix du produit, pour les démarches qu'ils mettent en place de respect de l'environnement. Cet effort a trois composantes. Ça couvre la vie complète du produit. La deuxième chose, c'est qu'on évalue le produit sur un service rendu. Et non pas sur le fait que ce soit un flacon, mais sur le service qui est rendu par le produit. Et le troisième point, c'est qu'on doit prendre en compte plusieurs critères environnementaux. L'empreinte carbone est incontournable, mais les deux autres impacts pour les cosmétiques sont la consommation d'eau et l'impact écotoxicologique.
L'écotoxicité du produit dans l'eau, comment est-ce que vous êtes venu à établir ce critère et quel va être son intérêt ?
Ce critère-là, comment on est venu à le prendre en compte ? En fait, quand on prend en compte un produit sur son impact changement climatique, sur son empreinte eau, la consommation d'eau, on se rend compte que tout ça, c'est lié plus à la phase d'utilisation, parce qu'il faut chauffer l'eau pour pouvoir rincer le produit et parce qu'il faut faire couler la douche quand on utilise le produit. Donc on a une vision tronquée du produit parce que les indicateurs qui ressortent sont affectés principalement par une phase de la vie du produit qui est l'utilisation. Si on veut avoir une vue plus globale du produit, il faut pouvoir couvrir l'ensemble de son cycle de vie. Et les choix des composantes du produit que l'on va mettre en œuvre, vont affecter complètement son empreinte environnementale. Selon qu'on peut avoir parfois des produits très très stables et relativement toxiques pour les organismes aquatiques qu'on retrouve dans des ingrédients de produits cosmétiques, ces produits-là risquent d'avoir un impact important sur la faune aquatique. A contrario, si le produit est optimisé de façon à avoir des produits qui se dégradent rapidement, donc des ingrédients qui se dégradent rapidement et qui sont peu impactant en termes de toxicité, à ce moment-là, on aura une empreinte écotoxicité qui sera faible. À un service équivalent et à exigence technique équivalente, on peut avoir plus ou moins d'impact sur l'environnement. Et l'un des critères, si on veut avoir une bonne vision du produit, c'est d'intégrer l'impact en termes d'écotoxicité. Cet impact est conditionné surtout par deux choses. C'est si le produit se dégrade peu, a priori, on va beaucoup le retrouver dans l'eau en aval des stations d'épuration et il va rester longtemps dans les rivières. Et si en plus de ça, il a un niveau de toxicité important, mais il va avoir un impact fort sur les algues, sur les poissons, sur les nématodes qui sont dans l'environnement, sur les arthropodes, sur les plécoptères, l'ensemble des invertébrés ou des vertébrés qu'on va retrouver dans les milieux naturels.
Est-ce que vous avez d'ores et déjà un premier panorama de ces labels qui sont en train de se dessiner même au stade expérimental ?
Alors, un point important. Dans la phrase, c'est la notion de label. Ici, lorsque l'on discute au ministère de l'Environnement ou à l'ADEME de ces questions-là, le mot de label est associé au fait d'avoir un produit qui peut obtenir un label ou ne pas obtenir un label. Donc avec un niveau de seuil, et soit il est au-dessus du seuil, donc il est mieux et il a le label, soit il est en dessous du seuil, il n'est pas encore assez bien et il n'a pas le label. L'affichage environnemental est une démarche quantifiée qui a pour but de classer les produits. Mais on n'aura pas des bons produits et des mauvais produits. On aura des produits qui vont se répartir sur une échelle d'impact, ce soit sur le CO2, soit sur l'eau, soit sur l'écotoxicité. Et à chaque fois, ils se positionneront sur une échelle de façon quantifiée. Donc, on n'est pas dans une situation d'un produit, il est bon, il est mauvais, ou il a le label ou il n'a pas le label. Il y a certains produits qui seront un petit peu mieux sur le changement climatique, mais qui seront un petit peu moins bien sur l'écotox. D'autres produits qui consommeront peut-être un petit peu moins d'eau, mais qui auront un petit peu plus d'impact sur le changement climatique. Et ça, il appartiendra à chaque produit de s'optimiser de façon à avoir le moins d'impact possible sur les trois cibles. Et il appartiendra au consommateur après de savoir quelle priorité il va mettre en fonction de ses cibles. Voilà, ça c'est pour faire la petite différence entre ce qu'on appelle l'affichage environnemental et la labellisation. Et en anglais, on dit le environmental footprint pour l'affichage environnemental et environmental labeling qui dit on a un label ou on ne l'a pas. Maintenant, ce qui est de l'implication des entreprises, ce qu'on constate, c'est que c'est une avancée qui a été faite à marche forcée. J'entends, c'est en 2 ans, on est passé de quelque chose qui n'existait pas, personne n'en avait la moindre idée, à quelque chose qui doit être partagé par toutes les entreprises où tout le monde doit se positionner. C'est extrêmement rapide. Ça veut dire que dans ce délai-là, les entreprises elles doivent d'une part découvrir de quoi on parle, d'autre part commencer à le mettre en application, en troisième lieu arriver à anticiper un petit peu quelles vont être les conséquences dans la démarche de communication, et quatre, intégrer les retours de consommateurs. Ce travail-là se met en place dans les entreprises, et ce que l'on voit ressortir aujourd'hui, c'est que les entreprises qui sont le plus à l'aise dans cette démarche-là sont celles qui ont déjà le plus réfléchi aux enjeux environnementaux de leurs produits, c'est-à-dire celles qui ont le plus de démarches de fond d'éco-conception depuis longtemps.
Mais comment travaille un bureau d'études tel que le vôtre ?
Un bureau d'études Cycleco a fait appel à plus de chercheurs, donc des docteurs, des ingénieurs, mais plus issus du monde de la recherche, qui ont une bonne maîtrise de ces méthodologies et qui peuvent les expliquer correctement aux entreprises et aider les entreprises à comprendre les enjeux qu'il y a derrière et les conséquences qu'il va y avoir pour elles. Et une fois que les entreprises ont compris, après elles peuvent avancer. Mais Cycleco a vraiment une démarche de transfert de connaissances. Il y a une douzaine de personnes, c'est un petit nombre de personnes, on n'a pas vocation à augmenter. Le but, c'est qu'on puisse avoir le meilleur format possible pour transférer la connaissance vers les entreprises pour qu'elles se l'approprient et qu'elles puissent avancer d'elles-mêmes après.